pour Brest, je crois pas qu'il faudrait parler de Bretagne, ça a absolument rien à voir avec la Bretagne, on n'y trouve rien de la Bretagne à Brest. Brest, pour moi, c'est vraiment une ville coupée, complètement coupée.
Ne serait-ce que par sa géométrie, d'abord. Le fait qu'elle soit construite d'une façon un peu comme les villes de l'Est.
Enfin, je me considère pas du tout comme un breton, hein. Ça a absolument rien à voir. Hein.
Est-ce que vous avez sentiment d'être au bout du monde?
Un peu isolé, oui. C'est un fait.
Le bout de la terre.
Le bout de la terre.
Le bout de la terre.
Plus rien après.
Après, il y a l'océan.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Non, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Un événement du passé, un personnage ou un lieu, mis en récit par un texte, des archives et des musiques choisies. Chaque samedi à 19h sur France Culture, voici Jukebox, bonsoir à tous. Ce soir, voyage au bout de la Bretagne, à Brest. Ravagée par la Seconde Guerre mondiale, la ville s'était relevée en s'appuyant sur ses ouvriers, son arsenal militaire et une forte culture locale. Les habitants s'étaient réappropriés les lieux sans les vieilles pierres d'antan, mais avec à la place un urbanisme étrange et austère, fait de larges artères, de béton et d'architecture hétéroclite. Pour tromper l'isolement et l'ingratitude du décor, la jeunesse brestoise s'était réfugiée dans la musique et l'émergence du rock. Ainsi était née et s'était développée la scène brestoise, longtemps dénigrée par rapport à sa voisine rennaise, plus sophistiquée, plus insouciante. C'est qu'à Brest, la musique, rugueuse, ne feint pas les postures, elle est le reflet d'une cité dure, mais fière d'elle-même. Ce soir, Jukebox file donc à Brest, la lointaine. Le film avait déjà commencé lorsqu'il était entré. Il s'était assis vers le fond, au hasard, parmi les travées vides et le velours élimé des sièges. Qui d'autre pour aller se faire une toile un mardi après-midi, à part les retraités ou les chômeurs? Le nanar, typique des années 80, mettait apparemment en avant les attributs généreux d'une blonde effarouchée. Ça aurait pu séduire les vieux un peu déprimés, mais peu importe vu que, les secondes passant, il avait constaté, avec une forme de soulagement, qu'il était bel et bien seul dans la salle de l'Éden. L'Éden, tu parles d'un paradis. On disait que les Boches l'avaient squatté pendant la guerre. Lui, cet après-midi-là, n'arrivait pas à fixer son attention sur l'histoire. La jolie blonde avait disparu et l'action se focalisait désormais sur les errements d'un détective privé, même s'il semblait cousu de fil blanc que ces deux-là allaient bientôt se recroiser. D'ici là, notre type avait tenté de faire le point sur sa situation. Aurait-il pu agir autrement? Que se serait-il passé si la veille, il ne s'était pas mis à aboyer sur son contremaître? Aurait-il quand même été viré? De fait, à Brest, ces derniers temps, ça licenciait par wagons entiers sans s'embarrasser d'excuses. Tu parles d'un paradis. Au bout d'un moment à ruminer, la blonde tardant à ressurgir, il en avait eu marre, s'était levé, était ressorti sans un regard pour la guichetière. Dehors, il s'attendait à la nuit tombée et à la bruine, au lieu de quoi, dans la rue Jean Jaurès, le norrois s'étant levé, les nuages filaient secs là-haut, la lumière changeante, les couleurs éclatantes. Après tout, s'était-il dit, rien n'était joué, rien n'était tout à fait perdu.
We'll be right back.
Great Peace 1983 par le groupe UV Jets, formé en 78 à Brest, d'abord sous le nom de Blitzkrieg avant d'adopter un nom moins guerrier et plus musical, U pour Underground et V pour Velvet. UV Jets qui, grâce à leur mini-album Shadows and Storm, avaient tenté, à leur manière, de prouver que Brest n'était pas qu'un port battu par les vents, mais aussi une cité d'expérimentation, constituant au tournant des années 70-80 une scène musicale bien vivante, malgré l'éloignement, malgré les éléments, malgré les préjugés. Brest qui, avouons-le, désarçonne le nouveau venu, et pas que lui, comme en témoignait en 1992 le peintre Paul Blouas ainsi que Bernard Loti, directeur d'un théâtre, au micro de Marie-Paul Vetz pour Le Pays d'ici sur France Culture.
Pour moi, Brest, c'est un peu comme une grosse salope avec laquelle on aime bien se faire chier. On est au bout d'une terre, c'est vrai, c'est vrai qu'en arrivant à Brest par le rail, les rails butent contre un mur. On sait qu'on arrive au terminus, et ce qui fait la beauté de la ville, c'est qu'elle n'a rien à voir avec son environnement, avec son paysage environnant. C'est-à-dire c'est un bloc de béton devant la mer, et c'est ça qui est beau, je crois. Elle ne ressemble pas du tout aux autres villes bretonnes, qui sont de la vieille pierre, qui sont relativement bien inscrites dans un paysage comme celui de la Bretagne.
Bon, moi, je trouve que c'est une ville très laide. C'est ce qui m'intéresse. La beauté, je trouve ça fatigant. On a partout de la beauté. Surtout dans ces villes-là, grises, parce qu'on parle de la mer, mais quand on regarde la mer, on voit pas Brest. Il faut tourner le dos à la mer pour voir Brest. Oui. Et là, c'est une ville vraiment d'une laideur assez repoussante. Ce qui veut dire qu'on va pas passer son temps ici à contempler ou les paysages, ou les pierres, Non, rien du tout. Ce qui importe dans cette ville, c'est ce qu'on va y faire. Moi, je trouve que Brest est une ville vivante.
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas.
Impossible de comprendre Brest sans revenir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dont la ville sort détruite à 75%. Occupée pendant 4 ans par les Allemands, abritant des croiseurs du Reich ainsi qu'une base sous-marine, elle avait de ce fait été la cible de 160 campagnes de bombardements alliés. Des dizaines de milliers de tonnes de bombes plus tard, lors de la libération de la ville le 18 septembre 1944, seuls 10% des immeubles sont encore debout. Il ne reste plus rien ou presque du vieux Brest, comme l'écrit alors Prévert dans un poème mis en musique par Joseph Kosma et interprété plus tard par Montand. Certes, la célèbre rue de Siam, exotiquement nommée après la visite des siècles plus tôt d'une délégation asiatique, renaîtra. Certes, le bagne qui, jusqu'en 1858, avait servi de mouroir à tant de bagnards, certes, le bagne est toujours là, mais autour, ce n'est que désolation. Le pont de recouvrance qui enjambe la Penfeld, reliant la vieille ville à l'arsenal, s'est effondré dans la rivière. Alors, on se retrousse les manches. Évacuée les derniers mois du conflit, la ville renaît peu à peu via des baraquements provisoires. Et, en juillet 45, De Gaulle se rend sur place.
La Bretagne, elle aussi, reçoit la visite du chef du gouvernement, qui a commencé son tour d'amitié par Saint-Brieuc. Puis, c'est Brest. Le général De Gaulle parcourt la ville en ruine au milieu des acclamations. Ce tas de pierres qu'on fleurit, c'est ce qui reste d'un monument aux morts, massacré lui-même, symbole d'une ville martyre. Puis, le général de Gaulle a parcouru cette rade, l'une des plus belles du monde et qui redeviendra ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle doit être, notre plus grand port de guerre.
« Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, plus la princesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse. Le recouvrant ce que l'on délaisse, la rue de Siam, c'est nuit d'ivresse. Ce n'est pas par manque de politesse, je suis l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espace?
Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, le nom de Dieu que la princesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, le nom tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre part à la renverse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, est-ce que toi aussi ça te bouleverse?
Aujourd'hui, au moins, quelqu'un te berce.
Tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la pluie cesse, même la terre part à la renverse. Christophe Mieussec pour ce Brest 2004. Et de fait, au lendemain de la guerre, le tonnerre des explosions, ce fameux tonnerre de Brest qui remontait, dit-on, au XVIIIe siècle, au coup de canon tiré pour avertir les habitants de la cité de l'évasion de prisonniers du bagne, ce tonnerre n'appartenait pas encore au passé. Au cœur de l'été 1947, ainsi, un cargo norvégien venu des États-Unis est à quai dans le port de commerce. C'est l'époque du plan Marshall et il en accoste ainsi tous les deux ou trois jours. Ce jour-là, il fait beau et même chaud, 27 degrés à l'ombre, et ça n'est rien à côté de ce qui s'annonce. Tandis que des manœuvriers de la maison Lebras déchargent les soutes du cargo, 3000 tonnes d'engrais, du nitrate d'ammonium placé malencontreusement à proximité de paraffine s'enflamment. On brise les amarres à coups de hache pour remorquer le bateau vers le large, mais celui-ci s'échoue sur un banc de sable. Vers 17h30, l'explosion provoque un gigantesque effet de souffle. 26 morts et une centaine de blessés graves.
Monsieur Coty, sous-secrétaire d'État à la reconstruction, est venu aujourd'hui à Brest. Toute la matinée a été consacrée à une séance de travail avec les autorités de la ville, les services de la reconstruction et les représentants des sinistrés. La situation de Brest est particulièrement douloureuse. Rappelons ici que, aux destructions apportées par la guerre et les 6 semaines de siège en 1944, qui se sont chiffrées par près de 6000 immeubles rasés et plus de 10 000 partiellement détruits, sont venus s'ajouter les ravages causés le 28 juillet dernier par l'explosion d'un cargo de nitrate d'ammonium dans le port. Explosion qui détruisit ou endommagea près de 5000 maisons. En dépit de l'importance de ces destructions, Brest est en pleine activité. Il est frappant de constater, quand on traverse la ville, qu'on ne trouve pas de rue où il n'y ait une ou plusieurs maisons en chantier et partout s'élèvent des façades neuves. Actuellement, 12 000 bâtiments ont été réparés, dont il ne restait la plupart du temps que les murs extérieurs, et des immeubles représentant 4 km de façade sont en cours de construction. Si le centre de la ville est encore occupé par des baraquements provisoires, dont la majorité d'ailleurs est réservée à des boutiques, le gros effort de reconstruction en bâtiments définitifs porte actuellement sur les faubourgs de la ville, où s'élèvent d'importantes cités en voie d'achèvement, notamment au Stiffelou et au Petit Paris.
Mais avançons dans le temps et sautons maintenant au début des années 1960. 15 ans après la fin de la guerre, l'effort de reconstruction a été immense et la vie commence à se normaliser, même si les logements provisoires continuent de concerner 18 000 habitants. Les bulldozers ont rasé les ruines et une nouvelle ville a été érigée, parfois plusieurs dizaines de mètres au-dessus de l'ancienne, selon une logique de plan à damier et des rues droites et austères. Brest, ces années 50 et 60, a gagné son surnom de « ville blanche » en raison de l'utilisation, pour aplanir les murs en moellons, d'un ciment clair. Mais d'abord, cette blancheur ne saute pas aux yeux, d'autant que rapidement, l'air marin vient la salir. Et puis surtout, on s'est concentré sur l'essentiel, le plan général, la voirie, les logements, l'industrie et l'arsenal. Il est désormais temps de se pencher un peu sur ce qui pourrait permettre d'améliorer l'ordinaire des 130 000 habitants, la culture et les loisirs. Certes, en 1958, la très belle, verticale et moderniste église Saint-Louis de Brest a été livrée. Certes, Brest compte-t-elle alors des centaines de bistrots qui feront la réputation éthylique de la cité, mais la ville ne comporte ni salle de concert, ni véritable théâtre. Or, les jeunes représentent 20% de la population. La fac de Rennes y ouvre d'ailleurs plusieurs annexes, scientifiques ou littéraires. Il faut bien faire quelque chose pour ces jeunes. En 62 est inaugurée la Redoute, une salle de bal située en sous-sol de l'hôtel Vauban, ouvert avenue Clémenceau par un certain Charles Musy, un Corse venu faire son service militaire dans les années 30 et qui possédait alors deux petits hôtels détruits lors des bombardements. La Redoute, son style art déco et sa capacité de 500 places devient, dans les années 60, le principal rendez-vous des fans de musique. Elle fait salle comble tous les week-ends dans une ambiance survoltée et des débordements que deux solides videurs s'évertuent à canaliser. Et puis il y a le Prado, un autre petit club en fumée. Encore faut-il des orchestres pour faire vivre ces lieux. Du côté des groupes locaux, plusieurs s'infiltrent dans la vague rock qui déferle en France à partir de 1960. Bientôt se forment autour des frères Louise les Loups Noirs qu'on entendait à l'instant, qui connaissent auprès de la jeunesse brestoise un immense succès. Et puis il y a les Strollers, formés de 5 types qui bossent à l'Arsenal. Et puis les Blue Shades, créés en 64 par de jeunes ouvriers et qui, l'année suivante, enregistrent quelques titres mis en boîte grâce au magnétophone Tesla 4 pistes prêté par le curé de leur paroisse. Titres parmi lesquels ce Suzy Q, reprise d'un vieux standard américain rockabilly. Oh, Suzy Q. We'll be right back. Suzy Q par le groupe brestois Les Blue Shades qui, parmi d'autres, fera les grandes heures de la Redoute. Les Blue Shades à qui la mairie met alors à disposition une petite salle pour donner quelques concerts et à qui la paroisse de Kerbonne prête une salle de répétition. Les Blue Shades qui, néanmoins, jouent surtout alors dans les patronages et dans les balles. Les orchestres de bal dans lesquels le rock brestois puise ses premiers adeptes. Les bals qui, à cette époque en France, font le lien avec la période de l'avant-guerre. Brest, en 1960, compte une trentaine de ces groupes amateurs qui se produisent trois ou quatre fois par semaine dans les mariages, les soirées du samedi ou du dimanche, les kermesses ou les après-midi dominicaux. Les dancing, eux, sont nombreux, 200 environ. À Brest, il y a chez Bastard, où se retrouvent les fils de bonne famille, mais aussi la guinguette dans le quartier Saint-Marc, le petit jardin à Recouvrance, mais aussi donc la Redoute en centre-ville. Sans parler des salles des communes environnantes, au nord à Saint-Renan, à l'ouest au Conquet ou à Landivisio, plus à l'est. Une compagnie de cars assure l'acheminement des danseurs. Ces bals sont pour les groupes de bonnes écoles, obligeant les musiciens à apprendre quantité de morceaux de tous les styles pour assurer des heures de prestation. Des spectacles qui par ailleurs leur permettent de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir se payer amplis et instruments qu'on trouve notamment chez Paris Musique, ouvert rue Émile Zola par un ancien accordéoniste. Les moins fortunés, écrit Olivier Pollard dans son ouvrage 40 ans de rock à Brest, ouvrage de référence de cette histoire, les moins fortunés vont jusqu'à utiliser les câbles de frein ou récupérer de petites sonos d'église, voire de vieux postes TSF qu'ils trafiquent. À Brest, les premiers rockers se retrouvent, jean Levi's, chemise à carreaux ou blouson de cuir, dans les rades de la ville, au Moderne ou bien à l'Épée, en bas de la rue de Siam, et où les disques rock tournent dans les jukebox. Vers 65, l'arrivée des premiers transistors permet ensuite de capter Radio Luxembourg, mais surtout les radios anglaises et la BBC. L'Angleterre, Manchester, Liverpool, à qui Brest, ville ouvrière et portuaire, s'identifie alors fortement. Cette même année est créé le premier fan club de rock de Brest par Aldo et Chico Leroux, où sont donnés chaque samedi soir des concerts. La mairie en interdit toutefois l'accès aux filles. C'est que depuis toujours ou presque, les concerts et les bals de Brest tournent souvent aux embrouilles. Pas plus qu'ailleurs, mais pas moins non plus. Bagarres, bastons, fauteuils arrachés, verres brisés, intervention des videurs. Ici, la musique est une expérience physique. Puis viennent l'apparition dès 1967 des premiers petits festivals pop, où viennent notamment se produire les Britanniques du rock progressif Procol Harum. Les autorités locales ont du mal à endiguer les envies de nouveautés et l'enthousiasme de la jeunesse. Suivent la contestation de mai 68, les usines de la ville occupées par les ouvriers, le blocage de la gare SNCF, et puis dans la foulée, l'émergence des premiers hippies. Pour autant, les autorités veillent au grain et en 69, lorsque De Gaulle repasse par Brest, tous les types arborant des cheveux un peu trop longs sont mis à l'ombre le temps de la visite présidentielle. C'est que Brest, pour la France, c'est avant tout son arsenal, l'arsouille comme on l'appelle avec humour, où depuis Colbert sont entretenus les navires de l'armée française. L'Arsenal, une ville dans la ville, 300 hectares fermés à la population, mais dont l'enjeu stratégique est scruté de très près. L'antimilitarisme touche bien quelques jeunes de Brest, mais la réalité locale est incontournable. Les appelés débarquent chaque semaine par convois entiers à la gare et, qu'ils soient ouvriers de maintenance, techniciens, cadres ou militaires, les légions en uniforme de l'Arsenal sont partout en fin de journée, dans les bars ou dans les rues. L'époque change. Bientôt, en 1970, beaucoup des dancing d'antan, soumis à une législation de plus en plus contraignante, se transforment en discothèque, un DJ coûtant moins cher qu'un orchestre. D'autres salles ferment, comme la Redoute. Il faut désormais se tourner vers les MJC, c'est la fin d'une époque. Plusieurs groupes majeurs des années précédentes, comme les Wellsons ou les Blue Shades, se séparent. France Culture, Jukebox, ce soir, Brest, quand la rade s'électrise.
Dans une rue de Gantisao, on osse tanque soli. Quelch din a grid on hondes bit squas pahan tuani. Pahan tuani. Metre brede ode vid gwellots clair. Et du fil et de l'orang en zère. En virionné, ça sourit au skédi. Dira Pépini. Dira. Vague du vide du temps et froid, car on te dise. Mais ce quarante et joie l'art avait jour, ma tenue au cri, ma tenue au c'est tout en face. Un mardéo de glendin dans le bec et grosse. Rague ton galon, mais wow, t'es vie. Gloria de Narspi. Gloria de
Pir Chirinaden, autrement dit le pèlerinage en breton, enregistré à Milizac, au nord de Brest, est sorti en 1976 en 45 tours, d'après un texte du poète breton Yann Berpiriou et interprété par le chanteur Manu Lanuel. Lanuel, né près de Douarnenez, qui était venu à Brest pour étudier la médecine avant rapidement de se tourner vers la musique. Dans les années 70, à Brest, malgré le succès rencontré par Lanuel, la scène rock reste relativement à l'écart des tentatives de fusion folk régionaliste à la Triane. Tandis que la musique se politise et explore plutôt les thèmes de la contre-culture, que l'usage de la fumette se répand malgré les risques encourus, éclatent plusieurs mouvements sociaux, à l'Arsenal au printemps 1971, ou bien autour du port de commerce, de ses grues colorées, ou bien parmi les marins pêcheurs, comme ici en 1973, archives ORTF.
La pêche contre la raffinerie, c'est un peu l'enjeu d'une petite bataille qui s'est déroulée ce matin aux abords du port de Brest, bloquée pendant plusieurs heures par des bateaux de pêche. Motif de la colère momentanée des marins et des ostréiculteurs, ils sont hostiles à l'implantation d'une raffinerie dans cette région.
Manifestation de masse, mais qui s'est déroulée dans le calme, comme l'avait demandé M. Kerdon-Kuf, le président du syndicat des marins pêcheurs. À 6h30, 130 bateaux environ ont bloqué le port. Installés dans les deux passes, ils empêchaient d'accéder et interdisaient de ce fait les mouvements de bateaux de commerce et des bâtiments militaires. En fait, un seul bateau a été gêné par cette manœuvre, un petit cargo danois venant de Hollande avec des coquilles de moules qu'il devait immerger ce matin dans la rivière de Daoulas pour la formation de Nessindup.
En 1977, pour la première fois, la mairie de Brest passe à gauche. Les grèves, pourtant, continuent de marquer la vie du port de commerce, celui de l'Arsenal, comme en 78-79, qui voit défiler les ouvriers réclamant le maintien de l'alignement de leurs salaires sur ceux de la métallurgie parisienne, mesure que souhaite remettre en question le gouvernement de Raymond Barre. C'est que la crise économique est bien là, le chômage explose. Sa traduction musicale, c'est évidemment l'arrivée du punk, à laquelle n'échappe pas Brest. Vague punk dont le premier représentant local s'appelle Nicolas Cruel, groupe constitué dès 77 autour du chanteur Yves Andréot, alias Félix Baguera. Le groupe démontre une incroyable énergie sur scène, mais face aux difficultés à le faire tourner hors de Bretagne, leur manager, débrouillard, décide de s'y prendre autrement, parvenant à faire venir sur place des pointures punk ou rock afin de permettre à ses musiciens d'en assurer les premières parties et ainsi de se faire connaître. Fin 77, les punks britanniques de Damned se produisent salle Cerdan, un gymnase de la ville, puis ce sera Téléphone à l'Auditorium, à chaque fois avec Nicolas Cruel en ouverture. Débauche d'énergie, voire d'hystérie concernant le chanteur félin entortillé à son pied de micro, ces concerts resteront pour ceux qui y assistent mythiques, d'autant que le groupe n'enregistrera jamais de 45 tours, même s'il survivra, j'ignore comment, ce court mais énergique Back to Magneta. You should know by the way you walk, and I know by the way you talk, and I know by the way you smile. Oh, baby, you're mine. I can make another dream. Show me all this world I've seen. And if you know what I mean, I've been shot. You should know by the way you're proud, and I know by the way you're wild, and I know by the way you're young. But you're the one that can make another dream. Show me all this world I've seen. And if you know why I may have been shot. Somebody told me that the wind should all be heat. Somebody told me that the wind should all be heat. When I think about old nervous rock and roll bands, you're just going to lack the wedge of joy. Somebody told me in the pits and the light shines on you. Somebody told me that, babe, it ought to be you. You should know by the way you walk, and I know by the way you talk, and I know by the way you smile. Le groupe Nicolas Cruel pour ce Back to Magneta, 1 minute 30 et puis s'en va, l'un des rares enregistrements disponibles de ce groupe qui, au printemps 79, tandis que le succès frappait enfin à sa porte, se retrouvait planté en pleine tournée par Félix Baguera, son chanteur tête brûlée. Baguera, parti pour l'Angleterre, revenu plus tard à Brest, s'impliquant dans un autre groupe, Coyote Pass, avant de mourir à 35 ans d'un excès de dope. La drogue, cocaïne, héroïne, qui, ce début des années 80, commence à faire des ravages. Pour l'heure, nous sommes en 1983 et Brest attire à elle l'attention des Enfants du Rock, magazine de télé créé en 82 par Michel Vuhermet qui fait alors le tour des scènes rock de France. Après Le Havre ou Sochaux, l'émission pose ses caméras à Brest fin janvier. Vuhermet et Alain Dister y captent la fanfare de l'Arsenal, l'étonnante gouaille d'un gamin de 13 ans, l'envie de la jeunesse d'alors de sortir de toute cette grisaille, les ferries qu'on va attraper à Roscoff pour aller s'aérer quelques jours dans les pubs anglais. Ils y filment également le seul enregistrement jamais conservé d'un groupe qui défraie alors l'enthousiasme brestois. Printemps Noir, formé en 81, nommé d'après le roman d'Henry Miller et composé à la guitare du jeune Christophe Miossec, du chanteur Éric Sessou et du batteur Jean-Claude Herry. Printemps Noir que voici avec ce titre « Ta bouche, tes yeux ».
I saw.
Le groupe Printemps Noir dans ce « Ta bouche, tes yeux » capté en janvier 1983 et où suinte l'influence de la Cold Wave et notamment les accents de The Cure. Au début des années 80, l'essor des radios libres touche aussi le Finistère et Brest où se crée en 84 Radio Fréquence Mutine qui émet depuis le centre social du quartier de Kerangoff, brouillant au passage la réception de la télé des voisins, mais qui, peu à peu, se structure et se fait le relais de cette culture rock et bientôt post-punk. Ce début des années 80 sourde en effet depuis l'Angleterre voisine la mélancolie de la New Wave, cette musique froide, synthétique, triste qui séduit nombre de groupes bretons, parmi lesquels les Rennais de Marquis de Sade qui, en 81, intitule un de leurs albums Rue de Siam, du nom de la célèbre artère brestoise. À Brest, une association Quai des Brumes se monte pour aider ces nouveaux groupes, organisant un festival en 82. Parmi ces groupes, les UV Jets qu'on entendait déjà au tout début de cette émission et qu'on entend de nouveau ici avec ce Boys, UV Jets qui, dans la foulée de l'enregistrement d'un album pour le label américain RCA, sombre en même temps que la division rock du label en question. Autre figure de cette nouvelle vague, le groupe Splash, fondé en 82 et qui se produit notamment Salle Stella, qui, malgré son allure décrépite, devient alors la salle en vogue de Brest. Splash, dont les concerts n'excèdent souvent pas la demi-heure, mais qui fait de plus en plus parler de lui, se produisant au Transmusical de Rennes, avant d'aller enregistrer au printemps 84 à Oxford, deux titres parmi lesquels The Working. Le groupe Splash avec deux S pour ce Working sorti en mai 1984.
Pâte de velours à base de mangue, bal masqué, fruit de la passion et grenadine, voici les potions magiques proposées par les organisateurs du défi brestois. Mettre au régime sec pendant 3 jours les habitants de la ville aux 450 bistrots et sans contrainte, c'est effectivement un défi ambitieux. Les adolescents boivent de plus en plus d'alcool, certains patrons de café eux-mêmes le dénoncent.
Il y a 5-6 mois de ça, deux jeunes gens sont venus dans mon établissement. Et effectivement, ils avaient 14-15 ans, ils m'ont demandé de Martini Gin. J'ai refusé de les servir, ils m'ont insulté par plein de noms d'oiseaux, bien sûr. Et ils sont partis acheter une bouteille de Martini qu'ils ont bu devant ma porte et ça m'a fait très très mal.
Comme en témoigne cette archive d'Antenne 2 de 1985, la ville tente alors vainement de combattre la consommation faramineuse d'alcool. La soif de musique est également à son apogée alors à Brest, tant dans les bars qui proposent des concerts gratuits et où joue à plein la solidarité entre groupes qu'à travers l'organisation des premiers grands festivals, notamment Elixir, ou bien le festival Rock sur la Blanche, qui se tient Jardin Kennedy et participe à faire connaître la nouvelle scène locale. Ces années-là, une nouvelle vague punk fait parler d'elle, portée par l'ouverture à Brest d'une boutique de fringues dédiées, pantalons écossais, cuir à clous, etc. Cette vague punk est constituée de groupes musclés, comme les Collabos, formés en 82 autour du chanteur Rascal et d'un sens aigu de l'humour potache. Suivra notamment Al Capote, créé en 83 dans les HLM de Bellevue et qui tourne pendant des années à travers la France. Puis en 88 se forme le groupe Ad Hoc Gibbon. Ils tournent rapidement dans les cafés-concerts où leurs paroles en français soignées les font sortir du lot. Leur manager décide de leur faire publier simultanément 2 45 tours autoproduits qui se vendent peu malgré de nombreux concerts. Parmi les titres édités, on trouve ce morte saison racontant « Viens faire un tour dans ce terrain vague, voir si je te veux, expérimente mes lassitudes, estime ce que je vaux. »
Thank you.
1990, Morte Saison, par le groupe brestois Ad Hoc Gibbon, qui pourtant se sépare l'année suivante. La durée de vie de la plupart des groupes brestois est décidément courte. En 90, ouvre bien à Brest la Maison du Rock, première structure du genre en Bretagne, censée aider les musiciens à se professionnaliser. Mais le manque de salles continue de poser problème. Certes, l'ancienne salle de bal de la Redoute rouvre sous le nom d'Espace Vauban, bénéficiant d'une longue réhabilitation, mais en dehors d'elle, c'est à Landerneau, une petite commune située à 30 minutes de voiture de Brest, que se trouve la seule salle digne de ce nom, le Family, qui attire à elle les grands groupes de rock français. Depuis fin 89, un groupe brestois s'impose néanmoins, les Locataires, autour du chanteur Bruno Leroux, multipliant des concerts haletants, notamment à Rennes ou bien au Printemps de Bourges, et enregistrant ensuite, grâce à la radio Fréquence Mutine, changée pour l'occasion en maison de disques, un premier 3 titres contenant, comme souvent, des chansons évoquant le quotidien, le contexte social ou bien la vie nocturne de Brest, comme dans ce mois d'août, déroulant dans les bars au mois d'août, la rue nous appartient. Je ne réponds plus de rien.
Rien ne nous empêche de faire comme avant. On ne projette plus rien, enfin on boit sans soif, sans souci, sans argent. Bien dans la peau, bien dans notre show. On danse des slow sur les terrasses des bars au mois d'août. La rue nous appartient.
La reconnaissance musicale de Brest viendra finalement d'un de ses enfants partis vivre ailleurs. Après sa séparation d'avec Printemps Noir en 83, Miossec était allé à Paris, était devenu journaliste, suivant toutefois comme pigiste l'actualité musicale bretonne pour Ouest France. Revenu à Brest en 93, il s'était recollé à la musique, déroulant sur scène une présence magnétique, fragile et insolente, multipliant par la suite les albums. Même s'il a quitté depuis sa maison de la presqu'île de Crozon pour revenir à Paris, Miossec est aujourd'hui devenu, à son corps défendant, l'âme de Brest, la plume de la rade. L'histoire du rock à Brest ne s'arrête toutefois pas avec lui, qu'on pense au phénomène Matmata à la fin des années 90 ou à d'autres groupes comme No Place for Soul, mais aussi à Le Mammouth qui, en 2017, sortait l'album Brest Baywatch sur lequel on trouve ce Wesson Sheep. We'll be right back. Ainsi se referme ce numéro de Jukebox ce soir, Brest la lointaine. Un très grand merci à Olivier Pollard, auteur de l'excellent 40 ans de rock à Brest, publié en 2005 chez La Blanche Productions, ouvrage qui a largement nourri l'écriture de cette émission. Merci également pour son aide précieuse à Gwen Potard de La Carène, la salle des musiques actuelles de Brest. Jukebox, c'était Lily Connaerts cette semaine à la préparation avec l'aide d'Anne-Lise Signoret, d'Antoine Vuillos de la discothèque, de Marie Chauveau-Alina et les services de la documentation d'actualité. À la technique ce soir, c'était Jean-Michel Bernaud. Comme chaque semaine, Agnès Catou à la réalisation. Au micro, Amaury Chardot, à samedi 19h pour un prochain Jukebox.